Pendant ce petit quart d'heure, il m'est venu une rencontre avec un de mes maîtres un jour lorsque je me suis présentée à lui et que j'avais préparé un long entretien, parce qu'on est censé dire les choses minutieusement dans cette tradition de Vipassana en Birmanie. Et puis il m'a simplement regardé. Il m'a dit, combien de pourcents as-tu été présente aujourd'hui? Et puis, si je vous pose la question, et moi, je l'ai regardé tellement étonnée, et j'ai dit, 5%. Il me dit, t'es honnête. C'est déjà 5% de plus que si tu n'avais pas été présente. Et c'est exactement comme ceci qu'on doit pouvoir considérer la pratique. Et c'est vrai que déjà 5% de plus dans notre vie quotidienne, que pas du tout, c'est tout ça de plus. Au fil du temps, je crois que ce qui se passe dans ce processus, et j'en discutais aujourd'hui avec certains d'entre vous, c'est que ce qu'on découvre, un peu malgré nous, mais on découvre qu'il y a une curiosité plus grande à être conscient que d'avoir des expériences plaisantes. Et ça change énormément le processus. Là, il y a un renversement de situation où notre position intérieure est que, bien sûr, on est plus quelque part dans la disponibilité de ce qui est plutôt que de ce qu'on voudrait. Et ça, c'est extrêmement important lorsque, par moment, justement, la présence devient la dimension de est-ce qu'il y a de la présence, est-ce qu'il n'y a pas de présence, plutôt que est-ce qu'il y a ce type d'expérience au lieu de celui-ci. Donc on s'intéresse à être conscient. C'est la conscience, la présence, le fait d'être intéressé qui permet qu'elle grandisse. Et il y a là toute une dimension, une manière naturelle de pouvoir ensuite faire de cette présence le socle, la base duquel ou de laquelle il émerge le vécu. Ça a du sens, ça, pour vous? Et ça implique qu'on a une autre manière de pouvoir aller à la rencontre de ce qui émerge. Plus il y a de présence, plus il va y avoir de confiance. Et cette confiance, on ne peut pas simplement la souhaiter. C'est une confiance à nouveau, une qualité, on la nomme sada. Et cette qualité, elle est dans le sens du vécu, de ce qui est éprouvé. Et donc, elle a cette dimension de pouvoir nous mettre en phase avec la vie, indépendamment des expériences. Donc, quelque part, la conscience se révèle, on peut dire à elle-même. Et de ce fait, on l'interfère beaucoup moins, dans le sens de vouloir ou pas vouloir, d'essayer d'obtenir ou ne pas obtenir. Et le processus, à ce moment-là, eh bien, il se déroule d'une façon un petit peu plus libre. C'est tout à fait naturel et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'on ressent. On n'en a peut-être pas conscience, mais c'est ce qui se passe. En conscience ou pas, mais c'est ce qui se passe. Qu'on soit là et qu'on en prenne la mesure ou pas. Et ça rend l'aventure d'autant plus intéressante. Et de ce fait-là, il y a une disposition à être intéressé à l'investigation. Donc cette investigation, cette curiosité, cet intérêt va naturellement être ce qu'on va cultiver en équilibre avec la tranquillité, le calme. Et cette tranquillité, ce calme qu'on désire tant éprouver, ne vient pas tant d'un état spécifique, d'une expérience particulière, mais bien de la stabilité de la présence. Dans ce registre-ci, c'est pour ça qu'on a vraiment cette dimension d'être intéressé à la continuité, dans le sens de essayer d'être au contact, mais en développant la présence. Est-ce qu'il y a de la présence? Non, il n'y en a pas. Voilà pourquoi il m'a posé la question. Combien de pourcents as-tu été présente aujourd'hui? Donc c'est la présence, la qualité de contact qui devient quelque part le socle, la base. Et c'est la dimension de curiosité et d'être intéressé, d'être vraiment dans cette disposition à vivre l'expérience, quelle qu'elle soit, qui va nourrir et qui va alimenter la présence, plus de présence. Plus de stabilité de présence, plus de calme, plus de tranquillité, moins d'agitation. Donc il y a naturellement un processus, même si bien sûr on dit toute expérience est équivalente et elles ont la même valeur, la valeur de nous réveiller, de nous apprendre quelque chose. Mais dans un déroulement progressif, dans une évolution lente, graduelle, c'est ça qui se passe. C'est une description naturelle d'un cheminement en conscience et en confiance. Et à ce moment-là, il y a aussi cette dimension d'avoir beaucoup plus de plaisir, ce qui n'est pas anodin. On a envie de pratiquer, on est content de pratiquer. Et je crois que si on n'a pas cette dimension-là, où, comme pour tout, où il y a une stimulation, où on est dans l'envie de découvrir, de la découverte, peu importe si par moment, effectivement, il y a des difficultés, sachant qu'elles sont de manière passagère, mais la dimension de joie de pratiquer, pour ma part en tout cas, est essentielle. Après, ça ne veut pas dire de l'émulation permanente et puis de devoir constamment être excité. Ce n'est pas du tout ceci dont il s'agit, car il y a vraiment un équilibre dans le sens de toutes ces qualités qu'on appelle ces facteurs d'éveil. Hein. Si vous avez pratiqué avec nous, il y a bien des exposés qui ont parlé de ces facteurs mentaux, qui sont les facteurs d'éveil. Il y a naturellement là des découvertes et par moments ces facteurs sont plus ou moins présents, plus ou moins absents. Mais la joie de pratiquer est quelque chose qui émerge indépendamment des expériences ou des circonstances. Indépendamment de ce qui est là, de ce qui se présente à nous. La conséquence de ceci, c'est que nous ne méditons plus pour le même motif. Et ça, c'est une immense intuition. Il y a vraiment là une dimension d'une intuition, d'une insight, qui est révélateur de quelque chose. C'est que on n'est plus dans cette dimension d'attente de la pratique qu'elle va nous donner du confort. Bien sûr qu'il y a plus de confort, il y a plus d'aise naturelle parce qu'on cultive certaines qualités, mais ce n'est pas le motif pour lequel on pratique. Donc le wellness est facultatif. Le motif, c'est être plus libre. C'est vraiment ça la dimension, c'est me sentir plus libre avec ces circonstances-ci, dans cette vie-ci, quelle que soit notre vie, au contact de ce qui émerge. Ici sur le coussin, et puis bien sûr, tout le sens de la pratique, c'est l'intégration dans la vie quotidienne. Donc lorsqu'on devient content d'être simplement conscient, eh bien, ça nous nourrit. Il y a une attitude là de simplicité. On simplifie à ce moment-là son rapport à l'expérience. Donc ce n'est pas tant notre habitude d'être simple. C'est pour ça qu'on a de la peur, de la peine à demeurer présent. Mais au contact et dans cette situation tellement particulière de retraite, où il y a vraiment tout est ôté au niveau des distractions, des divertissements, c'est inimaginable. L'absence de distractions alors qu'on vit de plus en plus dans un monde où il semble qu'il n'y ait plus que ça. Tout devient divertissement. Divertissement dans la politique, dans l'économie, il y a vraiment... C'est très intéressant, je trouve, cet aspect-là. Tout à coup, il faut que tout devienne divertissant. Enfin, je ne veux pas aller dans mes idées à ce sujet, parce que ce n'est pas le sens de... Mais peut-être qu'un jour, j'en parlerai, d'ailleurs. Ennui et divertissement. Ce sera le sujet, peut-être, d'un futur exposé. Mais cette dimension d'être content, d'être présent, dans cette extrême simplicité qui nous est proposée ici, permet de nourrir ce lien à l'essentiel. Et de pouvoir se rendre compte qu'en fait, par moment en tout cas, il y a une nourriture qui provient de ce contact. Et donc, effectivement, ce n'est pas dans notre habitude. Donc, on a peut-être à réapprendre la simplicité, réapprendre la confiance et la gratitude. Et je trouve que c'est très, très bien dans une fin d'année, là, où bien sûr qu'il y a des moments où il y a des réflexions qui émergent en nous par rapport à cette année, par rapport à l'année qui vient. Enfin, vous savez, cette période où on a des résolutions... un petit peu le constat de notre vie et ce qu'on a envie peut-être de poursuivre, ce qu'on peut peut-être abandonner, laisser de côté. Ça se passe surtout dans ce moment, cette période de l'année. Et donc la simplicité peut être une évocation et qui permet de simplement à l'évocation de ce terme, de se dire, tiens, ouais, que c'est possible, ici et ailleurs. Donc, tout ce que je décris là, c'est vraiment franchir un pas dans la pratique. On franchit un pas parce qu'on commence à sentir qu'on est plus apte à demeurer en présence, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et la confiance dans cette présence, ça fait que par moment, on n'a pas besoin d'être toujours le conducteur de notre pratique. On n'a pas toujours besoin de conduire le gouvernail et qu'on peut peut-être prendre le siège du passager et s'asseoir dans le siège du passager pendant un petit moment. Et on laisse le processus se dérouler. Sans qu'on ait à intervenir constamment. Et bien sûr que ça nourrit à ce moment-là une qualité de présence qui s'établit et qui s'approfondit. Il y a un petit texte de Achancha qui dit « Accepter la réalité ne signifie pas se résigner ou subir ce qui se passe. » Accepter la réalité de ce qui est n'est pas du tout une attitude passive. C'est simplement reconnaître que les choses sont comme elles sont. Accepter la réalité, c'est être capable de ne pas porter de jugement et de ressentir ce qui se passe en le voyant tel quel, et non tel qu'on l'aimerait que ce soit. Accepter la réalité de ce qui est ne change pas l'avenir, mais cela évite beaucoup de souffrance. Quand il n'y a pas de différence entre ce qui est et ce que l'on perçoit, il n'y a plus de place pour la souffrance. Donc c'est vraiment être en phase avec les choses comme elles sont. Tout le sens de Vipassana que je crois Charles a décrit. Les expériences, les moments sont reçus comme ils sont. Et on est dans cette disposition à ne pas devoir constamment vouloir changer l'expérience. Ni l'améliorer, ni la transformer, ni l'éviter. Et ça, c'est liberté, liberté intérieure. Donc, dans le sens de l'enseignement de hier soir, où j'ai parlé de reconnaître les pensées, vous vous souvenez de l'enseignement d'hier soir? C'est loin, hein? Ça en est passé des moments quand on n'est plus présent aussi. Le temps a une certaine consistance. Donc, reconnaître les pensées. Et puis, j'ai aussi dit, vers la fin, qu'il y a des fois des contenus et des pensées qui sont récurrentes, hein, où il y a naturellement un type de pensée où ce n'est pas simplement évident de les reconnaître pour ce qu'elles sont, et qu'il est possible qu'il y ait d'autres types d'expériences sous-jacentes, telles que des émotions qui peuvent les alimenter. Vous vous souvenez de ça? Oui? Donc, on explore parfois un territoire un peu périlleux dans ces cas-là. Et puis, c'est vraiment intéressant qu'il m'est revenu en pensant à cette évocation du penser, des ruminations mentales. J'ai médité pendant 9 mois au Forest Refuge quand il s'est ouvert en 2003. Et on avait donc du temps, hein, 9 mois, voilà, on vit là au jour le jour. Et puis, on avait la possibilité de faire une machine de lavage du linge, donc son petit linge, et qu'on écrivait son nom. Et puis, on choisissait l'heure et le jour. Et donc voilà. Très consciente et présente. J'ai marqué mon nom pour le lendemain, une certaine heure. Puis je vais à l'heure dite, le jour dit, et je vois mon nom qui est biffé. Vous vous rendez compte? Dans le monde d'un méditant ou d'une méditante, je peux vous dire que ça prend des proportions. Si vous n'avez pas eu de petits moments d'échange dans ce contexte, parce qu'avec la concentration, avec le calme, les choses grossissent. C'est comme ça, tout devient macro. Et donc là, la personne avait en plus marqué son nom à la place du mien. Donc je savais exactement de qui il s'agissait. Et donc voilà, rumination. Est-ce que je lui écris un mot? Non, on ne peut pas écrire deux mots. Je rumine ça. Je vous passe les détails. Émotion, enfin voilà, tout un contexte, mais tellement idiot. Après, par la suite, je me suis sentie mais tellement idiote. Mais dans l'instant, ça touchait quelque chose d'extrêmement profond, en fait. Ma place, ma vie sur cette terre. Je ne suis pas accueillie, je ne suis pas reconnue. Vous vous rendez compte ce que ça touche dans une personne, le fait même de vivre une chose comme celle-ci. Et donc, en 2003, il s'est trouvé que j'ai fait une retraite à MS avec Saïd Outejania. Et cette personne était là. Et la première pensée qui m'est venue, c'est elle qui m'a fait ça. Mais c'est incroyable. alors que tant de temps était passé, c'est cet élément-là qui est ressorti. Comme quoi le conditionnement et les impressions sont fortes pour dire que le processus de découverte et de libération d'une souffrance qui quand même n'est pas très grande là, mais qui touchait naturellement une souffrance beaucoup plus profonde d'un vécu du passé et qui réveillait tout ça. Donc on ne sait jamais qu'est-ce qui va donner l'émulation d'un vécu passé et qui, lorsque ça se réveille, eh bien, la première chose qu'on a envie de faire, c'est enfouir, puis non, non, c'est complètement ridicule. On raisonne. Vous êtes d'accord avec le mental, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raisonner. Ce n'est pas raisonnable. Quand le sujet n'est vraiment pas raisonnable, eh bien, ça ne touche pas à la raison. Ça touche justement à la sensation, à la perception, à la conscience de ce que je peux vouloir vivre et tâtonner avec fragilité, vulnérabilité, avec tout ce que ça peut comporter de résistance. Et c'est exactement là qu'on commence à découvrir la dimension du contact et de demeurer au contact en présence de l'émotion qui est présente au moment où elle se présente. Donc, ce qui est complètement inhabituel ici, c'est que émerge un vécu passé. Ah oui, ça touche ceci, parce que forcément, il y a eu d'autres fois où il y a eu cette même exploration et cette même dimension de non-reconnaissance et d'être heurté, blessé pour X raisons. Donc, on sait ce que ça touche, peut-être que certaines personnes ne le savent pas, donc ça ne réveille pas immédiatement le passé, mais ça peut être quelque chose qui va révéler quelque chose de l'ordre du passé. Et plutôt que de rester dans le mental, à essayer de réfléchir, raisonner, ruminer, trouver la cause et le pourquoi, on reste très proche de l'expérience présente. Et ça, c'est complètement inhabituel. C'est-à-dire de rester proche de « tiens, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et dans ce cas, c'est intéressant parce que toute cette description que j'ai faite, elle est là. C'est fort, ça, quand même. Vous ne trouvez pas ? Donc, c'est intéressant d'aller pouvoir me dire « mais alors, en fait, il n'y a pas vraiment de résolution. Il n'y a pas vraiment de changement, de transformation. » Si la transformation, elle fait qu'on peut complètement accueillir. C'est une capacité de pouvoir être en total accueil. Et ça, ce n'est pas la référence. Je le vis là. Et en même temps, ce n'est pas ça la référence. Et c'est extraordinaire parce que y a un vécu, il y a un ressenti. Et donc, l'émotion qui peut être présente ici, c'est ouais, de la tristesse, par exemple. Et c'est comment la tristesse, plutôt que de pouvoir me dire, tiens, c'est pour cette raison que je suis triste, ou c'est cette cause qui va naturellement faire que je suis triste, ou c'est cette personne, ou c'est cette situation. Donc là, nous sommes beaucoup plus simples, dans le sens de, c'est comment la tristesse, et je l'accueille, et je la ressens certainement dans cet espace physique de sensation, s'il n'y a peut-être pas de contact avec les impressions physiques, eh bien, je peux naturellement avoir une dimension de présence et laisser cet espace de présence aller à la réflexion. Il y a peut-être de l'ordre du mental, du niveau du mental, et tout à coup, une dimension émotionnelle du vécu qui se passe par le biais du mental. Mais ça traverse quelque part, ça traverse l'être et il y a une résonance qui fait que on l'intègre et on peut le vivre d'une manière autre que simplement dans le sens d'être perdu dans les pensées. Donc on est présent à ses pensées. Donc il y a la conscience d'être présent aux pensées Et au moment donné, on perd le contact. On est perdu. Perdu, présent. Perdu, présent. Et dans tout ce registre, il y a la réaction. Je ne devrais pas, mais enfin, quand même. Voilà, tout le jugement, tout ce qui fait qu'on le perd dans le sens de c'est pas raisonnable. Enfin, tout ce qui se dit là est complètement intégré parce que c'est normal. Dans cet espace-là, il y a autre chose que la raison. Il y a autre chose que l'apparition d'un processus de rumination mentale. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une toute autre découverte et exploration du vécu, de l'expérience, et qu'on peut tranquillement lâcher la saisie, c'est-à-dire le vouloir, et l'attachement, l'agrippement. Ah, ça ne devrait pas être. C'est vécu, c'est reçu, et c'est OK. C'est surtout ça, c'est accepté inconditionnellement. Donc, sans aucun doute, dans ce contenu des pensées dont j'ai parlé hier soir, par moment, il va y avoir des pensées récurrentes. C'est possible. Ces espèces de pensées, même qu'on peut dire obsessionnelles. C'est tout simplement des choses qu'on n'a pas encore digérées complètement ou qu'on n'a pas intégrées. On peut dire des histoires non résolues et qui demandent notre attention. Et dans ce registre-ci, c'est magnifique de pouvoir vraiment explorer ceci car on a tout l'espace, tout le temps. Il y a aussi dans ce processus de pratique et cheminement de la méditation, des fois des réémergences de vécu qui ont été extrêmement douloureux. Des actions qu'on a commises qui n'étaient franchement pas très heureuses ou qu'on nous a fait. Et des choses très précises. Et je me souviens à nouveau, pendant cette longue période de retraite, il y a ressurgi, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé d'une manière extrêmement intuitive. On ne sait pas d'où émergent les choses. Mais tout à coup, c'est extraordinaire, c'est l'odorat qui m'a ramené à un vécu lorsque j'avais 4, 5, 6 ans. L'odeur. Et j'ai lu l'autre jour que c'est l'odorat qui est le sens, quelque part, la perception sensorielle qui est liée à l'émotion et aux émotions. Et donc, tout à coup, j'ai une odeur de DTT. Oh, vous savez ce que c'est que le DTT? Ce flix, le spray qui tue les insectes. Et c'est très fort, cette odeur. Waouh, c'est impressionnant, là aussi. C'est là. Moi, j'ai grandi en Afrique. Et donc, pendant des années, tous les soirs, on passait dans toutes les pièces, on sprayait les insectes, les bestioles, les cancrelats. Enfin, il y en avait beaucoup, hein. Pour le dire. Et je me vois enfant avoir un plaisir à sprayer. Et sur mon coussin de méditation, avec horreur, en conscience, revivre ça en disant oh, mais c'est horrible, c'est épouvantable. Je suis la personne la plus mauvaise et en plus, sur un long cycle, mais forcément en inconscience. Voilà, heureusement enfant. Et à cette époque-là, il y avait une totale différence de conscience, la conscience animale et la conscience. C'est extraordinaire le cheminement qu'on a fait. Et il y a encore du progrès à faire, hein, mais par rapport à la souffrance animale. Mais quand même, la conscience est là. Après, ce qu'on en fait, chacun son vécu. Mais c'était comme une nouvelle réalité où tout à coup tout s'ouvrait à moi. Et c'est très intéressant dans ce moment-là de perpétuer ce sentiment de culpabilité, de honte, et de renforcer la souffrance alors que cet événement était complètement passé et combien la souffrance réactivée au présent, là, dans cette situation où il ne se passait absolument pas ceci, renforçait la tendance à vivre ceci en souffrance. Et ça, on va passer par là. Vous comprenez ceci? Que, voilà, ça fait partie, quelque part, de la rencontre. Et savoir, c'est vraiment avoir le courage d'investiguer. Moi, je trouve que c'est un courage immense que de sortir, justement, de ce mode opérationnel et cycle de conditions où c'est oh, soit l'apitoiement, soit l'agressivité envers soi-même, la haine de soi, parce que c'est ça, la culpabilité, c'est la haine de soi, et qui renforce ce sentiment, c'est moi qui ai fait ça, qui fait qu'il y a une énorme saisie, et de bouger de cet aspect-là, et de vraiment sortir de cette dimension-là, pour avoir le courage de se dire non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Dans cette réalité-ci, qu'est-ce qui est en train de surgir? Et c'est comme ça qu'on sort des ruminations mentales. C'est comme ça qu'on va naturellement laisser émerger et comprendre qu'il faut un courage pour se sortir de ce cycle d'habitude qui fait que, ben voilà, j'en remets encore une couche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là l'investigation dont j'ai parlé avant. Cette qualité de présence qui, s'il y a de la présence en confiance, me permet d'explorer de cet espace de présence cette pensée désagréable qui me rappelle ce vécu, cette émotion extrêmement forte. Je me souviens d'avoir des larmes, vraiment, très, c'était comme si j'y étais, mais j'y étais pas. Et de pouvoir sortir de cette emprise, on peut dire, vraiment sous l'effet de la transe de ce vécu, et accepter de voir la réalité. Accepter de voir la réalité, c'est les choses sont comme elles sont. En ce moment même, là, il y a des pensées désagréables, il y a un vécu désagréable, il y a des émotions qui sont fortes, et il y a des réactions par rapport à c'était pas juste, et voilà. Et du courage et de la détermination pour sortir de ceci et avoir cette extrême bienveillance, je dirais, et compassion pour la souffrance que ça a causée. La souffrance, là, la mienne, et la souffrance des êtres qu'on a pu naturellement blesser d'une manière ou d'une autre. Et de la même manière, ce même processus opère dans le sens inverse. La souffrance qu'on a pu ressentir de la part d'une autre personne, ce qui m'a blessée, ce qui m'a. Et ça touche, quelque part, ça touche ces deux histoires, elles se rencontrent à un moment donné. Ça touche, quelque part, cette existence-ci, cet être-ci. Et de pouvoir vivre un tout petit peu plus calmement, tranquillement, de cet espace de ici, en ce moment même, on n'y est plus là, c'est passé. C'est une histoire. Et prendre acte de la douleur occasionnée et vraiment de la détermination et de choisir, ben, c'est plus comme ceci que j'ai envie d'agir. Et on passe un cap. Donc là, il y a vraiment une dimension où il y a une transformation. On n'est plus en train de perpétuer le même registre des ruminations mentales et des pensées obsessionnelles. On sort de ce cycle. Il peut réémerger, mais il réémergera jamais avec la même force si on a passé ce cap et ce processus de vivre cette expérience au présent et percevoir aussi ce sentiment du moi, du je. Combien là il y a une fixation. Et combien ça peut être dérangeant comme réconfortant que de vouloir absolument s'appuyer sur un je, sur un moi qui est responsable de. Et du coup qui nourrit la culpabilité. Alors que ce sont quelque part des phénomènes passagers, des conditions qui émergent et qui passent. Donc le Bouddha a vraiment aussi décrit le fait qu'on peut incliner l'esprit dans une direction favorable. Qu'à un moment donné, il y a un choix, un positionnement de pouvoir nourrir ce qui va générer le lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, c'est bien sûr plus de liberté. Et donc, nourrir la présence, nourrir cette bienveillance, nourrir la compassion et demeurer en équanimité. Et ça, c'est une loi naturelle. Donc là, il y a un moment donné où cette présence, c'est une présence consciente qui permet de percevoir que ici même, je peux prendre ce chemin comme je peux prendre ce chemin. Et qui ne vont certes pas au même endroit. Mais alors vraiment pas. Et du coup, je suis en capacité de pouvoir être un peu plus libre. Donc le « je suis horrible d'avoir ces pensées », à ce moment-là, c'est une simple pensée. Ça a du sens ? Ce que ça fait, c'est que ça ouvre complètement le champ de l'expérience. Ça donne de l'espace. Parce que tout ce qui fait que je m'approprie tout ce vécu du passé réduit complètement le champ. C'est un ego qui est réducteur, qui fait que ça se fige et il y a une fixation sur l'ego, moi qui. Alors qu'il y a plein d'autres possibilités. Donc, tiens, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il en cet instant ? Que se passe-t-il ? Et ça, c'est une excellente question à se poser par moment. Donc, on change de comportement. Et ce premier changement, c'est dans le changement dans l'attitude, de pouvoir vraiment avoir confiance dans la présence et la laisser nous guider. C'est extraordinaire qu'on va pouvoir se rendre compte que la présence, elle contient en elle-même de la sagesse. Elle va choisir le chemin vers moins de souffrance plutôt que plus de souffrance, alors que l'ego fait l'inverse. Et la nature de cette conscience, c'est ce qu'on développe, c'est ce qu'on découvre. Quand il n'y a pas de saisie, il y a vraiment cette disposition où, waouh, c'est étonnant ça, il ne faut pas me demander comment, parce que c'est vraiment intuitif. Mais c'est vraiment ça qui est en train de se passer, c'est que quelque part le chemin qui va faire du bien est quelque chose qui nous vient intuitivement. Donc on a plus confiance et on découvre à ce moment-là qu'on peut laisser un petit peu les choses se révéler à elles-mêmes. La conscience se révèle à elle-même. Et ça, on l'apprend parce que toutes les caractéristiques sont à ce moment-là universelles pour tous. Ce n'est pas une particularité, ce n'est pas uniquement pour moi. C'est la nature de l'être humain d'aller cheminer. Donc, c'est valable pour vous, pour vous, pour vous, pour n'importe qui dans cette salle. Cette présence, elle est universelle dans le sens qu'elle n'a pas de particularité et ce n'est pas un état particulier. Donc, il y a une appréciation grandissante du chemin. Ce qui se passe dans ceci, c'est qu'on prend beaucoup moins toutes les expériences comme étant personnelles. Parce que je m'approprie chacune d'elles. Je suis triste, je suis en colère, Je suis honteuse. Je suis coupable. Et le « je », c'est une pensée. C'est exactement la même chose que le commentateur. C'est un concept. Ajouté. C'est une construction mentale. Et donc, dans la réalité de ce contact, de présence, on peut dire d'expérience directe, le « je », eh bien, il tombe. Parce qu'il y a la conscience et l'aspect de la conscience, le vécu. Donc le filtre, là, ce voile, il n'est plus là. Et c'est ça qui se passe. Quand tout à coup on se dit, comme quelqu'un aujourd'hui qui m'a demandé, mais c'est quoi ces moments-là? Eh bien, ces moments-là, c'est que justement, le jeu tombe. Et Ajahn Sumedho parle de ceci d'une manière assez... Je lui dis, lorsque vous êtes en proie à l'exaspération, plutôt que de vous dire, ça y est, je recommence à m'emporter ou à m'exaspérer, vous pouvez penser, ceci est la colère. Et il en va de même pour toutes les expériences, toutes les émotions. Ceci est de la peur. Vous la voyez tellement en termes personnels, par habitude. Tout devient ainsi alors un imbroglio confus de différents personnages, tantôt reliés entre eux, tantôt séparés. Et c'est très difficile à ce moment-là d'avoir de la compréhension. Ceci est la peur, ceci est la colère, ceci est la honte. C'est seulement cela. De la même manière, que le froid est le froid, la chaleur est la chaleur, la douleur est la douleur. Lorsque vous la voyez comme mienne, ça renforce l'image que vous avez de vous-même. Une image souvent négative. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'une image. Donc, il y a vraiment là tout un processus. Ça a du sens, ça? Quand on pratique, c'est incroyable combien on peut comprendre qu'il ne s'agit pas de changer ou de se débarrasser, mais vraiment cette dimension de voir, vision pénétrante, c'est qu'on a levé simplement la confusion. Là. Les expériences sont les mêmes. La seule chose qui a changé ou dont on s'est libéré, c'est la confusion, c'est le voile, c'est la méprise, le malentendu. Donc c'est beaucoup plus simple qu'on croit. Vous êtes d'accord? Et c'est exactement ceci qu'on découvre et qui nous permet de cheminer et d'explorer d'instant en instant. Donc c'est un processus. Maintenant, ce processus-là, il demande toujours une très grande, je dirais, une très grande tendresse et un très grand respect pour le temps que ça prend. Parce que vous voyez, aujourd'hui, tout va très vite, hein. Et puis donc, on ne se donne pas le temps. Qui malheureusement dans notre être et a vécu et un corps, eh bien on se rend compte qu'il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour intégrer, il y a besoin de temps pour respecter les résistances, il y a besoin de temps pour découvrir qu'on voudrait que ça aille plus vite, il y a besoin de temps. Tout ça, ça fait partie du processus. Il y a le temps du respect, de l'exaspération. Et on respecte les résistances. Donc tout est intégré. Et la manière de pouvoir, quelque part, se ressourcer, prendre appui, c'est revenir autant qu'il est nécessaire à une simplicité. C'est-à-dire, vous explorez ceci, ce que j'ai dit là, ce n'est pas évident. Eh bien, dans tout ce processus, ce cheminement, il y a des moments où on revient, on rétablit le contact avec la simplicité. Soit la sensation au contact de la respiration, soit les sons, quelque chose qui rééquilibre. Et ça, ce n'est pas de l'évitement, c'est de l'équilibre. Et autant qu'il est nécessaire. Si vraiment on est chahuté et puis qu'on est submergé et puis qu'on sent que, waouh, on va dans la nature. Et la nature, il n'y a pas meilleure ressource. Regarde l'eau qui coule et la rivière, waouh, de toute façon, c'est impermanent. Là, on peut se dire très rapidement, mais de toute façon, ça ne va pas durer, donc j'ai qu'à attendre. Et c'est très intéressant parce que attendre, oui, mais de quelle manière on attend? Qu'est-ce que ça veut dire attendre? Attendre et puis... je ne suis pas dans l'acceptation. Ou quelle est ma qualité d'attente? Elle n'est en tout cas pas passive. Là, il y a vraiment cet intérêt, cette dimension de vouloir et de pouvoir nourrir le processus. Donc, il y a mille manières de se ressourcer et de comprendre que ça prend du temps. Et on y revient. Et tous ces temps de respect, des résistances, de se nourrir de la bonté ou de la compassion, tout ça, ce sont des temps où on a vraiment cette capacité d'intégration. C'est les temps de digestion. Voilà, je vais terminer avec un texte de Roger Paul Droit que j'ai lu plusieurs fois ces derniers temps et qui me parle, donc j'ai envie de le partager. Il dit « On croit savoir ce que veut dire simple. En gros, sans chichi, sans fioriture, ni sophistication. » Peu importe qu'on parle d'un goût, d'un vêtement, d'une phrase ou d'une idée. Si c'est simple, alors c'est dépouillé. Dans cette forme de dénuement, on trouve généralement à la fois moins de quoi, moins de complications, de recherches, d'après, et plus de présence, d'intensité pure, d'authenticité sobre. Ce qui est simple se donne direct, s'offre à plein, se livre avec une sorte d'intégralité candide. C'est là qu'aujourd'hui, pour nous, surgissent quelques difficultés neuves et donc intéressantes. Autrefois, en effet, ce qui était simple était premier. Aliments, outils, formes, récits, sentiments, expressions, tout pouvait être simple, mais en se situant au commencement. Après, dans un second temps seulement, venaient les combinaisons. Architecture, texture, mixture et invention. Pour une raison qui semblait évidente, tout ce qui était élaboré, travaillé, échafaudé par travaux et raffinement une main n'apparaissait qu'au fil des ans. D'abord le simple, ensuite le composé. Or, c'est bien cela pour nous qui ne marche plus. À présent, le mouvement inverse s'impose. D'emblée, nous vivons entourés d'outils perfectionnés, de récits alambiqués, d'idées complexes. Pour atteindre la simplicité, nous devons commencer par la choisir. Il nous faut donc la projeter, la désirer, et même le plus souvent la fabriquer. Cette simplicité nouvelle n'est plus un point de départ, mais un résultat. Ce n'est plus une donnée première, mais un but à atteindre. Un horizon, un objectif. Il nous faut faire du simple à partir de l'hyper-complexe. Voilà notre tâche, peut-être notre destin. Il nous faut fusionner, condenser, trancher, délaisser, afin qu'émerge une ligne sobre et claire à partir d'un entrelac obscur. Nous devrons sans doute, pour y parvenir, poser des traits, comme en peinture, et ôter de la matière, comme en sculpture, trouver enfin comment combiner ces deux gestes opposés, via di porre, via di levare, que Léonard de Vinci avait su distinguer. Cette simplicité qui nous attend, qui nous est indispensable, est celle de l'après-trop. Une nouvelle épure s'esquisse à la suite des temps complexes et à partir d'eux. Cette candeur post-rusée résulte d'une victoire sur les complications. Elle se tient au-delà du composé et non en deçà. La direction temporelle s'est donc inversée. Le simple est devant nous et non derrière. En un autre régime du sens se met en place. Le simple n'est pas une régression, une sous-complexité, il devient progression. Surcomplexité. Ce qui a changé finalement, c'est que nous ne savons plus exactement ce que veut dire simple. Mais nous travaillons à l'inventer, pas à pas. Et j'avais envie de vous lire ça parce que je crois que dans cette situation-ci, on peut vraiment se réjouir, en tout cas, d'essayer d'inventer le simple. Et se nourrir de la simplicité. Voilà, donc les quelques mots que j'avais envie de partager avec vous ce soir.